RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Et 9h30 à Goma, les habitants de la capitale du Nord Kivu qui ont passé une nouvelle nuit dans le noir. Les lignes à haute tension ont été coupées dans les combats qui se poursuivent entre l'armée congolaise et ses alliés et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Goma, où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge dans des conditions plus que précaires. C'est dans ce contexte que Kinshasa a rappelé tous ses diplomates basés à Kigali et qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies doit se tenir cet après-midi. À la suite de ce journal au Gabon, où le ministre de l'Intérieur était hier devant la presse, il a expliqué le nouveau code électoral, mais aussi le choix de la date du 12 avril pour l'élection présidentielle, alors que le scrutin devait se tenir en août. Et puis, la fin de ce journal en musique, avec la voix de Julieta Cohen, artiste aux racines africaines qui vit désormais au Cap-Vert et qui sort son premier album cette semaine, 22h22, c'est le titre. On l'écoute dans 10 minutes. Les combats qui se poursuivent ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment sur le front nord. Hier, l'armée congolaise et ses alliés ont assuré avoir repoussé une offensive vers Goma du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, la capitale du Nord Kivu où l'électricité est coupée depuis 2 jours. De plus en plus de déplacés y trouvent refuge. On parle d'au moins 800 000 personnes, soit l'équivalent de la population initiale. Les lignes à haute tension ont été coupées au cours des combats, ce qui a également entraîné une pénurie d'eau. Alors face à cette situation, les habitants de Goma appellent les autorités à intervenir d'urgence. Reportage sur place d'Héritier Baraka.
Au quartier Mabanga Sud, au cœur de la ville, c'est l'obscurité qui nous accueille. Ici, les habitants allument des torches et bougies dans leur maison pour s'éclairer. Maombi, une vieille vendeuse de maïs, se plaint aussi du manque d'eau.
Nous vivons sans eau et sans électricité depuis qu'ils ont coupé la connexion lors des combats. Nous achetons des piles et une torche qui nous aident à voir.
Un peu plus loin, Kambere Moïsa, un jeune de Goma, qualifie cette situation inacceptable.
Et donc Goma, en ce moment, ou depuis avant-hier, est dans le noir, mais aussi l'eau ne coule pas dans nos robinets. Et donc ça, c'est très grave, parce que ce sont les éléments essentiels pour la vie de l'homme. Nous sommes en train de vivre plus que la souffrance.
La société civile locale de la ville de Goma parle, elle, d'une situation catastrophique.
Des hôpitaux qui reçoivent les blessés ont une carence en électricité, ce qui est un problème.
Vendredi dernier, la société Virunga a annoncé dans un communiqué que les lignes qui permettaient de servir Goma et Nyiragongo en électricité avaient été endommagées lors des affrontements entre les FARDC et alliés et les M23 soutenus par le Rwanda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Combats qui ont fait 13 morts parmi les soldats des forces régionales et des Nations Unies, parmi eux 9 soldats sud-africains, 7 qui combattaient au sein de la SADC, 2 autres au sein de la MONUSCO, la mission onusienne de stabilisation. J'ajoute que 3 soldats malawites et 1 soldat uruguayen ont également été tués ces dernières heures. Et je vous le disais en titre, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies est avancée à ce dimanche. Elle aura lieu à New York à partir de 16h, heure de Paris. En coulisses, les autorités congolaises ont rappelé l'ensemble des diplomates basés à Kigali. La RDC qui rompt donc ses relations diplomatiques avec le Rwanda, accusé par les Nations Unies et par l'Union Européenne de participer activement à l'offensive du groupe armé M23. Les deux institutions demandent au Rwanda de retirer ses troupes présentes dans l'est de la RDC. Bruxelles qui évoque par ailleurs une violation flagrante du droit international et dit vouloir examiner tous les outils à sa disposition afin de demander des comptes aux responsables du conflit. Des accusations massivement rejetées par Kigali, où l'on retrouve Lucie Mouillot.
Selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda, les déclarations des Nations Unies et de l'Union Européenne sont déséquilibrées. Ces communications ne dénoncent pas de manière suffisante, explique-t-il, l'association entre l'armée congolaise, des milices comme les FDLR, groupe à l'origine composé d'anciens génocidaires hutus rwandais, et des mercenaires européens. Le Rwanda fera tout ce qui est nécessaire pour protéger ses frontières et la population, affirme-t-il, sans répondre directement aux accusations concernant la présence de troupes sur le terrain à l'est de la RDC. Kigali désapprouve également, poursuit le porte-parole adjoint, le rôle actif de la MONUSCO aux côtés des FARDC et de leurs alliés dans les affrontements cette semaine. Un rôle déjà condamné plus tôt ce samedi sur le réseau social X par le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndungirehe, qui dénonce le soutien par les casques bleus d'une coalition militaire comprenant un groupe génocidaire sanctionné par les Nations Unies. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
L'Union européenne et les Nations Unies qui n'ont pas été les seuls à réagir à la position de l'Union africaine était elle aussi très attendue. Le président de la commission de l'UA s'est finalement exprimé. Moussa Faki Mahamat appelle à la stricte observation du cessez-le-feu convenu entre les parties, leur demandant de préserver la vie des populations civiles. L'UA, dans ce communiqué, ne condamne pas en revanche la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais et évoque dans le même temps une opposition politico-militaire, de quoi fortement irriter Kinshasa. Autre réaction hier soir, celle du président français Emmanuel Macron. L'Élysée assure que le chef de l'État s'est entretenu par téléphone et avec le Congolais Félix Tshisekedi et avec le Rwandais Paul Kagame. Selon cette même source, il a appelé à la fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais. Enfin, à son tour, l'Allemagne appelle ses ressortissants à quitter l'est de la RDC. Au Gabon, le ministre de l'Intérieur était hier devant la presse. Il y a quelques jours, la date de la prochaine présidentielle a été fixée au 12 avril, alors qu'elle devait initialement se tenir en août prochain. Les préparatifs s'accélèrent donc, puisque l'échéance approche. La révision de la liste électorale prend fin vendredi, et le code électoral a lui été promulgué par le président de la transition, le général Brice Oligui-Nguema. À Libreville, la correspondance d'Yves Laurent Goma.
Le chronogramme était à titre indicatif, a affirmé le ministre Herman Imongo, soutenant que l'exécutif a ressenti un besoin de vite sortir de la transition et retrouver un ordre constitutionnel normal. Les raisons économiques ont aussi motivé le choix de la date du 12 avril, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Tant que l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, beaucoup de portes nous sont fermées, a-t-il avoué. Herman Imongo a également répondu aux attaques contre son ministère, désormais chargé d'organiser les élections. C'est une recommandation des Gabonais lors du dialogue national inclusif, s'est-il défendu, démentant un possible conflit d'intérêts car l'administration est neutre, a-t-il dit. Dans une conférence de presse, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Binzé a battu en brèche ses arguments. C'est la mauvaise gestion qui oblige les bailleurs de fonds à fermer le robinet, a-t-il soutenu. Après avoir dénoncé le code électoral qui permet aux militaires de briguer les suffrages des populations, Bidé-Binzé a dit qu'il est prêt à être candidat à l'élection présidentielle, mais annoncera sa décision finale en mars prochain. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
Radio France Internationale, 8h38. À Yaoundé, au Cameroun, souvenez-vous, en fin d'année dernière, les autorités avaient décidé de la suspension des activités du REDAC, le réseau des organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale. Et bien, dans un communiqué publié vendredi, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, un organe de l'Union africaine, a pointé du doigt le Cameroun, mais aussi l'Éthiopie, par exemple, pour des restrictions récurrentes aux droits à la liberté d'association et de réunion. Une initiative qui réjouit forcément la directrice du REDAC, Maximilienne Ngombe, qui demande aux autorités d'initier un dialogue constructif avec la société civile. On l'écoute.
Le Cameroun est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Commission africaine, c'est l'émanation, c'est une institution qui vient de l'Union africaine. C'est en Afrique qui disent « nous ne voulons plus ceci dans notre pays. Nous voulons des associations fortes qui peuvent nous apporter des contradictions pour que nous puissions avancer. » Le Cameroun, nous sommes en une année électorale. Si on commence à bâillonner, à trouver toutes les méthodes inappropriées pour faire taire des associations et surtout les femmes défenseurs des droits humains qui dirigent les associations, vous savez très bien que la paix va être, n'est-ce pas, menacée et même la cohésion sociale. Ce que nous attendons, c'est simplement qu'il y ait peut-être des espaces de dialogue entre les autorités en charge des associations et nous. Nous ne sommes pas en conflit, il faut discuter, il faut dialoguer, nous sommes prêts, on peut mettre tout sur la table.
Maximilienne Ngombe, la directrice du REDAC. Le réseau des organisations de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, elle était avec Lisa Fabian. Et puis la fin de ce journal avec une découverte musicale. Julieta Cohen, chanteuse aux racines africaines. Elle est née à Paris et vit désormais au Cap-Vert. Elle a sorti son premier album cette semaine intitulé 22h22 en souvenir de sa grand-mère qui lui disait que cet horaire était un bon moment pour raconter une histoire ou pour prier. Julieta Cohen a donc suivi les conseils de sa grand-mère et a enregistré ce disque comme à la maison, en toute simplicité. Guillaume Thibault a pu la contacter alors qu'elle se trouvait entre deux escales.
Insaisissable, subtile, secrète, difficile de savoir où se trouve Julieta Cohen quand on l'appelle. Le voyage dans son ADN, l'amour du chant et la sono mondiale en héritage.
La musique, elle vient de la maison, chez nous. On a grandi avec mon oncle qui est collectionneur de vinyle.
Chercher la simplicité. Dès leur première rencontre, le poète et musicien capverdien Mario Lucio a proposé à Julieta Cohen de fabriquer ce disque.
Et on a eu une rencontre vraiment atypique. Et en fait, au bout de deux semaines d'échange et de partage musical, il m'a regardé, il m'a dit « Écoute, je veux produire ton album dans ce studio-là, à Lisbonne. » Et voilà.
Soutenu par José da Silva, le producteur de Cesaria Evora, Julieta Cohen a pu se poser sa voix, ses textes et imposer également ses convictions.
Alors, falso testimonio, ça veut dire un faux testament. Tout ce qui est fait pour nous diviser, c'est des fois des messages qui ont des répercussions énormes sur notre quotidien. Donc, c'est une lutte musicale pour transmettre que des messages de paix. Yo se chan vive, ma quelqu'un cre, quelqu'un ten a paix. Quelqu'un t'en a alma, o que n'y a corazón
ta sinti. Yo se cham viver. Voilà le message de paix de Julieta Cohen pour refermer ce journal. Le sujet était signé Guillaume Thibault. Tout de suite, vous retrouvez Julien Coquelroem.